Salut Cafard.
Salut Cancrola.
Qu'est-ce que tu fais sur CFM?
Je blablate de vieux bouquins. Et toi?
Ah bah c'est rigolo, moi je blablate de livres jeunesse.
On n'a qu'à faire une émission ensemble.
Les blablates, c'est une fois
par mois,
le mercredi à
19h
et le samedi à
13h
sur CFM
107.9. Bonjour.
Bonjour.
C'est les blablates sur CFM Rodez.
Avec Cafard et Cancrela.
Moi, c'est Cafard.
Moi, c'est Cancrela.
On va blablater des bouquins qu'on aime bien.
À tout de suite.
Vous êtes sur CFM Rhodes. C'était You Are the Only One des Black Keys. Vous écoutez les blablates. Et maintenant, Cancrela, tu vas nous parler d'un livre jeunesse.
Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Malika Ferjouk, une auteure que j'aime vraiment beaucoup et qui a écrit un roman qui s'appelle Sombre Citrouille. Donc, c'est pas un album jeunesse, c'est pas un livre pour les enfants, pour les tout petits. C'est un roman plutôt pour les adolescents. Malika Ferjouk, c'est une auteure donc française qui est assez connue. Elle est traduite dans une dizaine de langues déjà. Elle est célèbre. Elle a reçu plusieurs prix littéraires jeunesse, notamment le prix des sorcières et le prix Bernard Verseleux. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est reconnue et appréciée, et pas que par moi. Malika, ça vient en fait du verbe posséder en arabe. Parce que bon, moi j'aime bien les petits trucs un peu étymologiques. Donc posséder en arabe, ça se dit Malaka, voilà, j'ai un super accent. Et par extension, ça veut dire reine. Donc Malika, c'est la reine du roman jeunesse. Voilà, comme ça maintenant vous allez retenir Malika, parce que Ferjouk, j'ai pas trouvé comment vous faire retenir Ferjouk. Donc Malika déjà c'est pas mal. Et le livre dont je vais vous blablater aujourd'hui, c'est Sombre Citrouille, que ça s'appelle. Sombre Citrouille au pluriel. Sombre Citrouille, c'est un roman qu'on m'avait offert quand j'avais 10-11 ans. Ben, je l'ai pas lu tout de suite parce que bon, ben la couverture, elle est pas hyper engageante. Moi, je l'ai aux éditions Medium. Le livre est blanc cassé avec un rectangle horizontal orange dans lequel il y a la forme des trous d'un visage de deux citrouilles. Et bon, c'est pas vraiment la couverture jeunesse la plus attrayante qui existe. Mais quand j'ai fini par le lire, 2 ans plus tard, j'avais vraiment halluciné en me disant « Mais en fait, il est vraiment trop cool ce livre. » Et je me suis dit ce superbe proverbe « L'habit ne fait pas le moine. » Mais bon.
Il permet de rentrer dans les abbayes.
Voilà.
Tu sais ce que tu dis sur la couverture là qui était pas engageante. Ouais. C'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez qui arrive assez souvent quoi quand tu veux lire un livre. Moi ça m'arrive aussi, je crois que ça arrive à tout le monde de des fois juste la couverture tu te dis alors qu'en fait il est super bien quoi. Ouais. Mais il te faut des années du coup pour te décider à le lire quoi.
Carrément, ben c'est vraiment ce qui s'est passé là. Hein. Et puis c'est vrai moi je pense que je fais partie de ces personnes qui choisissent leurs livres pas mal avec la couverture, ouais, c'est sûr. Et bon, là, il se trouvait que j'avais rien à lire, donc j'ai fini par le lire. Donc en fait, c'est ça, Sombre Citrouille, c'est des surprises, et bon, pas toutes très très gaies. Justement, c'est une sombre histoire de citrouille un soir d'Halloween. Une sombre histoire de famille, la famille Coudrier, qui se rassemble pour l'anniversaire de papy. Et bien sûr, c'est le moment favori pour les romanciers pour faire éclater au grand jour toutes les vilaines taches qu'il y a sur le linge de famille. C'est pas un thème très jeunesse, mais c'est un thème très polar. En fait, Malika Ferjouk, elle fait partie de l'association 813.
L'association des amis des littératures policières, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça, tu la connais.
Ouais, je suis trop forte.
Merci, Kafa.
Et tu peux nous en dire plus sur ce livre, s'il te plaît, Cancrela?
Non. En fait... Non, en fait, non, parce que ça spoilerait l'histoire. Et j'ai regardé tout à l'heure, en plus, un truc vraiment intéressant. Spoiler, on peut dire aussi divulgâcher. Donc, ça divulgâcherait l'histoire.
C'est et donc, énorme.
Voilà, je veux pas divulgâcher l'histoire.
C'est énorme, parce qu'il y a divulguer et gâcher en même temps, quoi. C'est voilà. Le mot magique, quoi.
Tu sais qui c'est qui a trouvé ce mot-là?
Un Québécois.
Yes. Oui, c'est ça.
Décidément, je devine tout, moi, aujourd'hui.
Ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est que, en fait, Malika Ferjouk, c'est surtout une manière de raconter. Elle écrit super bien, et c'est sur ça que je vais un peu m'étendre. C'est que l'histoire, elle serait presque secondaire, sauf qu'en fait, même l'histoire, elle est bien. Donc, voilà. Mais Malika, elle sait raconter des personnages. C'est-à-dire qu'elle fait pas des descriptions, parce que c'est de la littérature jeunesse, donc elle fait pas des grandes descriptions. En fait, elle dessine ses personnages à travers les dialogues, leurs pensées, leurs actions. Et c'est super efficace, parce qu'on s'attache vraiment à eux, et ça travaille l'empathie, l'ouverture, des choses qui sont importantes. Hein.
Surtout pour les enfants.
Surtout, ouais, pour les adultes aussi.
Oui, pour les adultes aussi, en fait. Ouais.
Carrément. Et du coup, on passe par les lunettes de plusieurs regards, et ça, c'est assez chouette. Elle fait pas des personnages gentils et méchants.
Ah ben ça c'est super parce que franchement ce genre de distinction à la bisounours c'est vraiment trop fatigant. Quoi.
Ouais voilà en fait là c'est les adultes ils sont majoritairement quand même plus nuls que les enfants mais ils sont pas méchants et les enfants sont pas gentils. C'est juste que en fait même les adultes ils paraissent un peu moins matures presque que les enfants. Ce qui est un peu étonnant, mais en fait, ici, les adultes, chez Malika, les adultes ne sont pas des humains responsables, exemplaires et bienveillants. Ou du moins, pas complètement et pas toujours. Voilà. En fait, la différence entre les enfants et les adultes, c'est que les enfants, ils ont moins de passifs. Donc du coup, on leur pardonne plus facilement les erreurs qu'ils peuvent faire et ils ont plus de facilité à changer. Il y a une espèce d'espoir sur un changement possible que les adultes.
Ils sont cons et puis c'est tout, quoi.
Ils sont pas cons du coup, mais c'est juste que ils font des choix un peu des fois, ils subissent un peu leurs choix et puis ben on s'enferme au bout d'un moment dans des choix en fait. Donc on a un peu d'empathie toujours pour les adultes. Ils sont pas méchants. Mais c'est juste qu'ils se sont un petit peu enfermés dans leur propre rôle, quoi.
D'accord.
Voilà. Il y a quelque chose d'assez...
Donc, dans ce roman, La Sombre Citrouille, les adultes, ils sont comme ça, quoi.
Ils sont un peu comme ça, ouais. Il y a une espèce de réflexion un petit peu sur le fait, voilà, ils évoluent plus beaucoup, en fait. Mais pour Malika, en fait, raconter tout ça, elle sait le faire. Donc des choses qui sont des thèmes qui sont un peu sombres, hein, elle sait le raconter en faisant rire. Elle sait parler de beaucoup de choses qui sont assez dures, mais toujours de manière assez fine et assez drôle. Enfin, du moins pour moi et pour ceux qui lui ont donné des prix. Hein, donc bon, je suis quand même pas la seule. Elle aborde les aspects dramatiques, ironiques de la vie de manière légère et inattendue.
Il me semble qu'une fois tu m'avais déjà parlé de ce roman et que tu m'avais dit que la narration t'avait perturbée en tant que jeune adulte.
Oui, parce que enfin même là je pense quand je l'avais lu, moi j'avais 12-13 ans et c'était une des premières fois en fait où j'avais le sentiment que l'auteur il était un peu espiègle, tu vois. C'est-à-dire que il jouait avec le lecteur et avec ses attentes. Au début du livre, elle nous laisse croire quelque chose. Je ne vais pas dire ce que c'est parce que je ne vais pas divulgâcher. Mais elle nous laisse croire naturellement quelque chose. Et après, ben évidemment, c'est pas ça. Et on s'y laisse super facilement prendre. Et ça, c'est juste parce que elle parle à travers ses personnages. Elle fait vraiment un jeu de narration qui est vraiment intéressant. Et en littérature jeunesse, c'est...
C'est assez rare.
Ouais, c'est ça. Ça propose vraiment un vrai effort d'écrivain, quoi.
Dans la littérature en général, c'est assez rare quand même les jeux de narration assez complexes. Donc
ouais, là c'est, enfin moi c'était une agréable surprise, une des parmi celles qui peuvent vous attendre dans ce livre.
Ta-ta-tan.
Donc voilà, Malika Ferjouk, elle a écrit plein de livres et des scénarios aussi, mais bon, moi je vous parle de Sombre Citrouille uniquement parce que du coup c'était le premier que j'ai lu et du coup il était super bien. Du coup,
en plus, c'est dans la thématique actuelle, là, d'Halloween et tout, les citrouilles et tout ça.
Oui, voilà, le 31 octobre. Bon, mais en tout cas, vous pouvez aller les yeux fermés sur toute la bibliographie de Malika. Elle a fait plein d'autres choses, c'est super bien. Bon, pour finir, je vais juste dire une dernière chose sur les personnes qui peuvent lire le livre. C'est vrai que, bon, ça reste une réalité qui est assez difficile. Hein. C'est une enquête, c'est un polar. On est dans un monde d'adultes, vu par des enfants. Mais c'est la réalité, donc je sais pas après si ça c'est à voir si vous voulez offrir ça à votre enfant qui a 9 ans ou s'il faut attendre un petit peu, mais tout le monde y est confronté, la preuve dans le livre. Hein. Je vais ajouter un dernier truc sur la réalité un peu dure qu'elle peut décrire, c'est que bon tout le monde est confronté au même monde, même les enfants aussi du coup. Après c'est vrai que c'est comme tous ces films, enfin toutes ces choses qu'on regarde, on les regarde pas avec les mêmes regards quand on est enfant et adulte. Moi quand je l'ai lu, ça m'a pas, enfin c'est une histoire, bon il y a un meurtre en fait, voilà, il y a un meurtre, mais je pense que c'est pas ça qu'on retient du livre quand même, c'est vraiment l'histoire à la manière de raconter qui est intéressante.
Oui, on le lit différemment oui si on est un adolescent ou un adulte, quoi. Donc, ouais. Du coup, les adolescents peuvent très bien le lire. Ce n'est pas du tout traumatisant.
Non, et puis bon, enfin, en plus, je sais pas si on met ça en perspective avec ce que les adolescents regardent à côté. Je pense
oui,
que
c'est clair.
C'est absolument pas du tout traumatisant, quoi. Après, au niveau du style, elle a quand même un vocabulaire assez varié. Elle fait parler ses personnages avec un vocabulaire assez élaboré. Et ça, bon, ça a un effet sur les personnages et bon, je pense qu'on va pas trop non plus lui reprocher d'utiliser un peu de
vocabulaire.
Un peu
ça
de vocabulaire, c'est pas mal quand même. Voilà. Et le livre, il fait 200 pages à peu près.
Bon, ça se fait.
Bon, maintenant, je vais vous lire un passage.
Donc, tu vas nous lire le début du roman, le prologue.
Oui, c'est ça. Le tout début, les premières pages, et c'est effectivement un prologue. Et c'est à travers la voix d'un des personnages qui s'appelle Hermès.
Ouais.
Voilà, bon après, hein, les auteurs, ils ont toujours un petit peu des fantaisies sur les prénoms, c'est rigolo.
Bon, attends, c'est le seul moment où les écrivains peuvent se faire plaisir, alors...
Exactement. L'homme était allongé sur la terre du potager. Il dort, demanda Colin 6 ans qui fit rebondir deux fois son diabolo avant de s'arrêter pour un examen plus sérieux de la situation. Il dort, répéta-t-il cette fois en chuchotant. Il a les yeux ouverts, nota Violette. Papy Grand articula Annette de sa façon bien à elle d'articuler, c'est-à-dire inarticulée. Papy Grand aussi, il dort les yeux ouverts. L'homme se trouvait très exactement sous le noisetier. Noisetier que Pinède, le jardinier, appelait cette saleté qui donne que dalle qu'on ferait mieux de faire un feu avec, que Papy Grand appelait ce bazar de dieu de paquet de nœuds de noisetier, ou que l'on trouvait sous la rubrique Corylus Avellana dans les belles pages nervurées de l'herbier de Mamie Grand. Au pied du noisetier donc, en bordure du muret ouest, à trois pas du carré de courge, l'inconnu blond, assez jeune, un peu jaune, était horizontalement immobile. Comme ça, sur le dos, il paraissait long. Ses bras en particulier, les poignets descendant plus bas que les pans de sa veste à la drôle de couleur. Un pied de coq brun qui évoquait terriblement les cookies de Clara. Sa main gauche était gentiment posée au creux des feuilles mortes, ouvertes. On lui crie coucou ? Ça va le réveiller.
Ah, très joli.
Je vais m'arrêter là. Hein,
voilà. Merci, Cancrelin. Et c'est vrai qu'on sent déjà, je trouve, un peu la personnalité des gens avec l'oncle qui dit tel truc sur le noisetier, le papy qui dit tel autre truc, etc.
Ouais. Il y a vraiment des personnages qui ont des vraies personnalités. Puis il y a une vraie galerie de personnages. On n'est pas seulement avec un héros qui a des aventures. C'est plein de personnages. Ils sont tous intéressants. Et ça, c'est enrichissant, c'est bien, cette diversité un petit peu, pas avoir juste un héros, super-héros.
Merci Cancrelin pour cette présentation, donc de Sombre Citrouille, de Malika Ferjouk. Aux éditions, rappelle-nous.
Édition médium, du coup, moi je l'ai. Je pense que c'est essentiellement celle-là, oui. Mais avec plaisir, cafard. Et maintenant?
Avant d'attaquer la deuxième partie de l'émission et de vous présenter un classique de littérature, petite info, c'est un Jules Verne, mais alors lequel, vous pouvez y réfléchir pendant cette pause musicale.
Oh yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me.
C'était Stuck in the Middle with You de Steeler's Wheel. Vous êtes sur CFM Rodez 107.9 avec les Blablates et on écoute Cafard pour nous parler de...
de Jules Verne. Et plus précisément, d'un roman de Jules Verne qui n'est pas le plus connu mais qui reste quand même assez connu, c'est Michel Strogoff.
Ok.
Tu connais Cancrela ou pas? Non, voilà. Voilà, parce que quand on pense Jules Verne, on pense 20 000 lieues sous les mers, on pense Voyage au centre de la Terre, etc. Ouais. Michel Strogoff, bon, c'est un roman assez secondaire dans son œuvre. Mais pas par sa qualité, quoi. Plus par...
La place qu'il a eue dans les films, peut-être parce que les autres, ils ont été adaptés au cinéma pas mal.
Mais Michel Strogoff aussi, en fait, mais genre dans les années 50. Alors bon, c'est pas... Ouais. C'était un bon bout de temps, quand même. Donc, c'est un roman qui a été publié en 1876, qui fait environ 400 pages. Mais franchement, ça se lit quand même facile, quoi. Il n'y a pas de souci. Et c'est un roman d'aventure, bon, typique de Jules Verne. La seule différence avec le reste de son œuvre, c'est que il n'y a pas de côté extraordinaire ou fantastique, en fait, dans Michel Strogoff. C'est plus limite un roman historique dans le sens où ça s'inscrit dans un contexte historique précis.
D'accord.
Même si c'est pas basé sur des personnages historiques, quoi.
D'accord. Le contexte, lui, il est réel, quoi.
Voilà. Et donc, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, que tu disais, donc dans Sombre Citrouille, c'est pas du tout un personnage central, etc. Tous les personnages sont intéressants. Ah ben Michel Strogoff, c'est le contraire. Hein. Michel Strogoff, c'est le personnage central. Bien sûr, il y a d'autres personnages secondaires.
D'accord.
Mais tout est quand même centré sur lui.
Ouais.
Et c'est genre le Superman russe, quoi. Tu vois.
D'accord.
Bon, sans les collants et le slip, tu vois, mais c'est Superman russe.
Okay.
Quoi.
D'accord. Il est russe, du coup, lui.
Oui.
Ok.
Ouais. Oui, parce que ça se passe en Russie et c'est, à mon avis, un des grands intérêts de ce bouquin. Donc, pour vous récapituler un petit peu le début du récit, hein, l'histoire retrace le périple du capitaine Michel Strogoff, courrier du tsar. Envoyé de Moscou à Irkoutsk, la capitale de la Sibérie orientale, pour prévenir donc le frère du tsar de l'attaque imminente des Tartares, dirigée par leur chef Féofar Khan et le traître Ivan Ogareff.
Wow, okay.
Alors vous voyez, rien que là, ça fait rêver, quoi. Ouais. Les noms russes et tout. Enfin, moi, j'adore. J'adore tout ce qui touche à la Russie, donc.
Et courrier, du coup, c'est celui qui passe les informations, j'imagine.
Exactement. Ouais. Parce que, en fait, le problème qu'il y a au début du roman, c'est que la Russie va se faire envahir par les Tartares. Bien sûr, il y a le gouvernement du tsar.
Mm-hmm.
Et le frère du tsar, donc, est de l'autre côté de la Russie, à Irkoutsk. Et le tsar, il est à Moscou. Ouais, je fais des gestes en même temps, mais vous les voyez pas.
Ouais. C'est bien, comme ça fait une Russie visible,
voilà.
Pour moi, en tout cas.
Moi, je visualise. Voilà. Vous aussi, visualisez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Tartares, enfin, on suppose que c'est Tartares, ils ont saboté les fils télégraphiques. Donc, on peut pas envoyer de courrier de l'autre côté de la Russie. Du coup, le tsar décide d'envoyer un de ses courriers, c'est-à-dire un de ses capitaines, un de ses soldats, pour faire le trajet, pour prévenir son frère de l'attaque, pour qu'il puisse un petit peu réagir, quoi.
D'accord.
Défendre, etc. Donc, le principe de l'histoire, c'est Michel Strogoff qui doit traverser toute la Russie.
Ouais, c'est long commun, du coup, entre tes deux bras.
Alors, en termes de temps, à l'époque, ça se passe au fin 19e siècle, il faut environ 18 jours, si tout se passe bien.
18 jours?
18 jours, si tout se passe bien.
Mmh. Voilà. Je pensais plus, ok.
Et ça fait 3500 kilomètres. Mais 18 jours où tu t'arrêtes pas. En fait,
ouais,
tu t'arrêtes juste
pas,
pour dormir.
Ouais,
si tu t'arrêtes pour dormir, mais c'est tout, quoi.
D'accord.
Mais sinon, tu
t'avances,
voyages
quoi.
Toute la journée.
3500
kilomètres.
Okay.
Pour ne pas se faire arrêter par les Tartares qui commencent à envahir la Russie.
Les Tartares, c'est trop drôle. Je suis désolée. Mais les Tartares, c'est trop drôle, quoi.
Ouais.
Les tartines qui sont sur des chevaux. Tartine de tartare, quoi.
Oui, c'est ça.
Okay. Donc,
ouais, moi, je pensais plus genre des steaks crus.
Des steaks crus. sur des chevaux. L'attaque des steaks crus. Ok. Toi, c'est finalement, c'est pas si réel que ça. Hein. C'est un petit peu. Il y a un petit peu de fantastique chez Michel Strogoff, quoi.
Donc, Michel Strogoff, il prend une fausse identité pour traverser la Russie, pour pas se faire arrêter.
Ouais.
Et donc, il va la traverser sous le nom de Nicolas Korpanov. Michel Strogoff de Jules Verne, c'est vraiment une course contre la montre, quoi. Parce qu'il faut que le héros, notre Superman russe, arrive avant les Tartares et avant Ivan Ogareff, qui est un personnage quand même qui revient assez souvent dans le roman. On le revoit plusieurs fois.
Le traître.
Le traître, voilà. Celui qui a trahi la Russie. Donc, je vais vous lire juste un extrait du chapitre 10. Donc, le début du roman, c'est vers le début du roman. Michel Strogoff est parti de Moscou. Il est sur la route et il va traverser les monts Oural. Et il va y avoir un orage. Parce que, comme je vais vous l'expliquer après, ce pauvre Michel Strogoff, il lui arrive, mais toutes les merdes du monde. C'est abusé.
C'est un super héros, mais malchanceux quand même.
C'est ça. Les monts Oural se développent sur une étendue de près de 3000 verstes, c'est-à-dire 3200 kilomètres entre l'Europe et l'Asie. Quand on les appelle de ce nom d'Oural, qui est d'origine tartare, ou de celui de Poya, suivant la dénomination russe, ils sont toujours nommés justement, puisque ces deux noms signifient « ceinture » dans les deux langues. Nés sur le littoral de la mer Arctique, ils vont mourir sur les bords de la Caspienne. Telle était la frontière que Michel Strogoff devait franchir pour passer de Russie en Sibérie. Et on l'a dit en prenant la route qui va de Perm à Ekaterinbourg. Situé sur le versant oriental des monts Oural, il avait agi sagement. C'était la voie la plus facile et la plus sûre, celle qui sert au transit de tout le commerce de l'Asie centrale. La nuit devait suffire à cette traversée des montagnes si aucun accident ne survenait. Malheureusement, les premiers grondements du tonnerre annonçaient un orage que l'état particulier de l'atmosphère devait rendre redoutable. La tension électrique était telle qu'elle ne pouvait se résoudre que par un éclat violent.
Putain, c'est trop cool.
Oui, c'est très prenant, voilà, parce que tout le roman, c'est ça, en fait. Il passe par une étape importante ou un passage important et il y a toujours un truc qui va le freiner ou qui va intervenir.
C'est super prenant, en fait.
C'est vraiment très prenant, ouais, parce qu'on se dit tout le temps « Oh mon Dieu, mais comment il va survivre à ça ? Comment il va faire pour ça ?» etc. Donc là, par exemple, il y a un gros orage qui va éclater alors qu'il traverse la chaîne montagneuse. Ce livre, il est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, l'histoire, parce qu'il y a de nombreux rebondissements. Parce que Michel Strogoff, le héros, est confronté à de nombreux obstacles. Et c'est un livre vraiment sur la survie en milieu hostile, quoi. Puisque le héros est confronté à la nature, déjà, déchaînée, de la Russie. Hein, donc c'est pas de tout repos non plus, la nature russe. Hein, c'est les grands déserts, la toundra, le froid, etc.
La neige,
les montagnes, les fleuves qu'il faut souvent traverser. Il n'y a pas de pont. Enfin bon, c'est toujours un petit peu compliqué. Les animaux aussi, parce que du coup, il y a beaucoup d'animaux sauvages dans la Russie.
Des loups.
Des loups, oui. Des ours,
des
surtout.
Ours, ouais.
Et bien sûr, confrontés aux hommes aussi.
Plus dangereux.
Voilà, les hommes, la cruauté des hommes qu'ils rencontrent sur sa route. Il y a de la torture, des évasions, des camps ennemis. Enfin, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Et du coup, le pauvre Michel Strogoff, qui doit faire son voyage en 18 jours, il lui faut 3 mois pour le faire, finalement. Tellement il est ralenti et tellement il est confronté à de nombreux obstacles.
Du coup, j'ai envie de te poser la question, mais j'ai peur que tu répondes aussi. S'il arrive en 3 mois au lieu de 18 jours, ça pose pas un problème, parce qu'il est censé délivrer une information assez rapidement quand même, non ?
Oui, ben du coup, oui, le problème, c'est que l'invasion barbare, tartare, c'est pareil, a débuté, oui. En plus, pour ce pauvre Michel... Alors ça, c'est quand même génial, un Russe qui s'appelle Michel, ça me fait rêver.
Ouais, bon, c'est ça, clair. C'est... Michel, c'est pas, ouais.
Oui, c'est un
j'aurais
peu,
pu trouver un peu mieux que Michel. Bah,
c'est clair. Alors, tu sais, Vladimir, quoi.
Ouais,
Vladimir
quoi.
Strogoff,
Michel, quoi.
Michel Strogoff. Ouais, Jules Verne, là-dessus, il a un peu loupé, là, mais bon. Alors, ce qui est drôle dans ce roman, enfin, ce que je trouve drôle, c'est que tout ce qui peut tourner mal, tourne mal. C'est vraiment assez hallucinant.
Et c'est
quoi.
La loi de Murphy, ça.
C'est exactement, c'est la loi de Murphy dont on n'arrête pas de parler. Tout ce qui doit pas arriver,
enchaîne tout, quoi.
Ça se passe, quoi. Même au bout d'un moment, on se dit, mais c'est pas possible, il y arrivera jamais, quoi. En plus, dans le livre, il y a 2 cartes où on voit l'avancée dans la Russie. Et du coup, on se dit, ah bon, c'est bien, là, il a déjà été jusqu'au Mont Oural, là, il a déjà été jusqu'à Perm et tout. Mais au bout d'un moment, on se dit, mais oh, attends, mais là, en fait, il a plus rien, il peut plus avancer, il peut plus marcher, il reste la moitié de la Russie à traverser. Mais comment il va faire? Alors ça, je vous le dis pas, parce que je vous laisse le lire. Autre intérêt de ce roman, c'est la Russie. Et du coup, toutes les descriptions de la Russie, parce que c'est juste magnifique. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on voit, enfin Jules Verne, il s'attarde beaucoup sur la particularité de la Russie, qui est quand même un pays sur 2 continents, et avec quand même 2 cultures différentes. Et au fur et à mesure de l'avancée de Michel Strogoff, on voit justement
le
changement de culture. Et donc au début, on est dans l'Europe occidentale, et
d'accord.
Ensuite on passe
en Asie,
avec tous les changements de coutumes que ça suppose, quoi.
Okay.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les transports qui changent. Parce que du coup, c'est pas du tout le même aménagement du territoire selon les lieux. Mmh. Et donc, dans la Russie occidentale, on a les transports courants. Hein. Alors au début, il commence à prendre le train, puis le bateau. Et puis, il arrive au mont Oural. Et là, ça commence à se gâter. Donc là, il commence à prendre une charrette avec les chevaux, etc. Et ensuite, il continue carrément à pied. Et puis, il retrouve une charrette, puis recontinue à pied, et puis finit en barque.
Alors, d'accord.
C'est pour vous dire, ouais. Vous voyez, à quel point il galère, quoi.
Ok, ouais, d'accord.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, on voit le fonctionnement des transports à l'époque. Et par exemple, moi, j'ai appris plein de choses. Par exemple, le principe, c'est tel jour, je prends la charrette avec mes deux chevaux et j'avance le plus possible. Mmh. Mais à la fin de la journée, les chevaux, ils sont juste éclatés, quoi. Ils peuvent pas continuer. Et en fait, il y a des relais sur la route où ils peuvent récupérer des chevaux qui se sont reposés pour repartir.
D'accord, ok. Ils changent les chevaux, on garde la charrette et on repart.
Exactement. Okay. Et ça, c'est tout un stress aussi dans le roman parce que des fois, ils se font doubler par d'autres charrettes et du coup, c'est un peu genre, oh, mon Dieu, mais on n'aura pas assez de chevaux au prochain relais et tout.
D'accord, ok. Oui, c'est vrai que ça, c'est une réalité qu'on connaît pas trop quand même.
Non, pas du tout. ça fait plus trop partie de notre réalité, en tout cas. Occidental.
Ah, peut-être les pompes à essence qui se vident, c'est un petit peu la même chose, mais.
En gros, c'est un roman d'aventure historique que l'on retrouve dans toutes les collections. Mais moi, je vous conseille le livre de poche, la collection livre de poche. Parce qu'en fait, ils ont repris l'édition originale. Donc, les livres rouges, là, les fameux livres rouges, Jules Verne. Avec les dessins propres à Jules Verne, etc.
Ah d'accord, ils étaient illustrés, les romans, déjà quand ils sont sortis, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, on a les illustrations de l'édition originale,
d'accord.
De l'édition Hetzel. Et vous le trouvez aussi, bien sûr, dans les autres éditions, et gratuitement sur Internet, puisqu'il est passé libre de droit, donc en format PDF, vous pouvez le trouver facilement.
Eh ben merci beaucoup Kafar, ça avait l'air vraiment super super génial, ça me donne envie de le prendre. D'ailleurs la couverture est très jolie sur l'édition que t'as toi.
Oui, c'est
justement les illustrations dont tu parlais. Oui, c'est...
En fait ce qu'on voit sur la première de couverture, c'est pas comme ça qu'on dit, sur la couverture. Ce qu'on voit sur la couverture, c'est Michel Strogoff sur un cheval qui est en train de tomber dans un ravin.
Ouais, voilà. C'est vraiment, c'est l'image, elle fait vraiment exactement ce que tu racontes, quoi. C'est la grosse aventure juste à travers. Ça illustre très très bien ce que t'as raconté. Vraiment chouette.
Cancre là, du coup, quoi de neuf dans l'actualité littéraire ?
Alors les 21 et 22 octobre à Saint-Radegonde, il y a le festival du livre jeunesse dans la salle des fêtes. Voilà, pour ceux qui sont dans la région de Rodez, c'est l'occasion.
Ouais, c'est un super festival, ça, le festival Saint-Radegonde. Il est toujours très intéressant.
Oui, il est vraiment sympa. J'y suis allée l'année dernière. C'était très sympa. On a trouvé des petites surprises dans les nouvelles sorties.
Oui, moi, je voudrais juste revenir rapidement sur le prix Nobel de littérature 2017, à savoir l'écrivain britannique Kazuo Ishiguro, qui l'a obtenu donc au début du mois d'octobre 2017. Il a pas une œuvre très conséquente, il a écrit 7 ou 8 romans, il me semble, 7. Je ne connais pas, moi je n'ai jamais lu, mais il paraît que c'est très bien, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil ou à lire un roman entier d'ailleurs.
Et pour finir, on va se quitter sur une citation très méditative, qui est « Quand on arrache un navet, il reste un trou ».
Proverbe africain. On vous laisse méditer ce proverbe et on vous retrouve sur CFM Rodez pour la prochaine édition des Blablettes. Au revoir, Cancrela.
Salut, Kafar.
Salut, Kafar.
Salut, Cancrela.
Qu'est-ce que tu fais sur CFM ?
Je blablate de vieux bouquins. Et toi ?
Ah, bah c'est rigolo, moi je blablate de livres jeunesse.
On n'a qu'à faire une émission ensemble.
Les blablates, c'est une fois
par mois,
le mercredi à
19h
et le samedi à
13h
sur CFM
107.9.